Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du pédalo.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, Pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Et au programme de cette émission, on fait un point sur la situation au Proche-Orient, alors que la France reconnaît aujourd'hui l'existence de l'État palestinien. L'occasion aussi de faire un point sur les mobilisations prévues dans le département. Pour en parler, on reçoit Jean-Paul Roche et Chantal Canu de l'association France-Palestine Solidarité. Et puis en fin d'émission, je vous propose d'écouter le troisième et dernier épisode d'étudiants-étudiants Phase B, un programme en partenariat avec l'Université d'Angers qui vous permet de découvrir des étudiants ou étudiantes au parcours atypique. Aujourd'hui, rendez-vous avec Maxime, l'étudiant drag queen. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du lundi 22 septembre, alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Ce 22 septembre est une date historique, historique car c'est aujourd'hui que la France reconnaît l'État de Palestine. C'est à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais dans le même temps, Israël affirme vouloir frapper la ville de Gaza avec une force sans précédent. Alors pour faire un point sur la situation au Proche-Orient et sur les conséquences de cette reconnaissance de la Palestine, on reçoit Jean-Paul Roche et Chantal Canu, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous êtes membre de l'association France-Palestine Solidarité. Alors, je parlais de jour historique, mais est-ce que cette reconnaissance de la France est vraiment historique ou est-ce que ça n'est finalement que symbolique?
Oui, c'est une question qu'on peut tout à fait se poser, en effet. C'est vrai que c'est déjà symbolique. C'est symbolique. D'ailleurs, on se demande pourquoi ça intervient maintenant, parce que ça aurait pu intervenir beaucoup plus tôt, puisqu'en 2018 déjà, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale en tout cas, avait demandé au président de la République de reconnaître l'État de Palestine. C'était à l'époque de François Hollande. Et ça n'a pas été fait alors. Bien. Alors maintenant, le problème c'est que qu'est-ce qu'on reconnaît? Est-ce qu'on se condamne à une reconnaissance purement formelle d'un État qui est possible, mais qui est en train d'être écrasé sous les bombes, ou est-ce qu'on prend les moyens pour qu'il s'agisse d'autre chose et qu'on se donne les moyens d'aller plus loin? Et pour ça, à notre avis, il faudrait que cette reconnaissance soit accompagnée de mesures contraignantes pour contraindre l'État d'Israël à cesser son agression, tant à Gaza qu'en Cisjordanie.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Ce serait quoi ces mesures contraignantes?
Alors, ces mesures contraignantes, ben, y en a une qui pourrait faire très très mal et qui est très facile à prendre, c'est de suspendre l'accord d'association économique entre Israël et l'Union européenne. Alors, ça pourrait faire très très mal parce que l'Europe est le premier partenaire d'Israël. Alors, tous les pays européens ne suivraient pas forcément, mais on sait qu'il y en a un certain nombre qui, aujourd'hui, trouvent inacceptable ce qui se passe. Et au premier rang desquels, par exemple, l'Espagne et l'Irlande, qui ont déjà commencé à prendre des mesures. Alors, il est possible de suspendre cet accord en cas, c'est son article 2 qui le précise, en cas de violation des droits humains. Alors, y a-t-il aujourd'hui violation des droits humains? On peut poser la question, je crois que la réponse est évidente.
Chantal Canu, vous vouliez peut-être rebondir sur ce qu'a dit votre collègue?
Non, parce que je pense qu'il a dit, l'essentiel. Et c'est vrai qu'on se demande effectivement pourquoi avoir attendu aussi longtemps, parce que des mesures auraient pu être prises plus tôt. Et si la Palestine avait été reconnue par notre gouvernement, peut-être que ça aurait fait avancer un peu plus les choses.
Et comment est-ce que vous interprétez tous les deux ce choix, alors que dans le même temps, les collectifs, certains collectifs de soutien à la Palestine continuent encore d'être diabolisés par certains membres du gouvernement?
C'est bien ce qui nous préoccupe parce que on a jamais vu ça, cet acharnement contre les défenseurs de la Palestine et sans arrêt. Et ça a été les interdictions de manifestations, ça a été les interdictions de drapeaux sur les mairies. Et à chaque fois, on nous taxe d'antisémitisme, alors que nous, notre souci, c'est pas du tout cette question d'antisémitisme. On se sent pas du tout antisémite, mais on nous taxe toujours de cet adjectif d'antisémite, et c'est vraiment insupportable parce que nous, notre priorité, c'est la défense du peuple palestinien, c'est pas autre chose.
Et je dirais même que par rapport à l'antisémitisme, nous sommes les meilleurs défenseurs, le meilleur obstacle à l'antisémitisme. Parce que si nous ne posons pas... Qui est-ce qui aujourd'hui provoque l'antisémitisme? C'est précisément les ultras qui sont au pouvoir en Israël, les ultras, comme on les appelait, fascistes, homophobes, suprémacistes. Eux, effectivement, ils font... À leur corps défendant peut-être, ils font tout pour développer l'antisémitisme, contrairement à nous.
Chantal Canu en parlait tout à l'heure, donc les fameux drapeaux, il y a 52 mairies qui ont hissé des drapeaux palestiniens sur leur fronton, et pourtant Bruno Retailleau avait formellement demandé au préfet d'interdire ces drapeaux, évoquant une neutralité du service public. Ça vous évoque quoi ce paradoxe finalement? Parce qu'on est quand même dans une journée où...
C'est un petit peu curieux.
De défense de la Palestine, et finalement...
Oui, on n'a jamais entendu Bruno Retailleau... demander aux nombreuses mairies qui l'arborent d'enlever le drapeau ukrainien. Et quelle différence il y a entre les deux? L'Ukraine est attaquée, agressée, violentée par la Russie. La Palestine, exactement de la même façon par Israël. Donc là, il y a un paradoxe. Et en plus, il y a une incohérence entre le président de la République, comme vous l'avez dit, et son ministre de l'Intérieur, dont on voit bien quelles sont les préoccupations qui sont, en gros, celles de l'extrême droite.
Mais Emmanuel Macron ne pourrait pas justement recadrer Bruno Retailleau à ce propos, si c'est quand même... Pourquoi est-ce qu'il dit rien?
Il faudrait peut-être lui demander. Bon, je pense que... Voilà, là, il y a une vraie incohérence.
Vous qui organisez des manifestations depuis près de 2 ans, est-ce que vous remarquez des changements, que ce soit dans l'opinion publique ou dans les discours politiques? En d'autres termes, est-ce que c'est plus facile de parler de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui plutôt qu'il y a 2 ans?
Alors, je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, on trouve une oreille plus attentive. Moi, je trouve, au cours des manifestations, on rencontre beaucoup de gens, certains qui savent rien ou peu de choses sur le conflit, qui s'intéressent, qui veulent recevoir des informations, même qui adhèrent, puisque on a fait un bond en avant au niveau des adhésions à notre association. Et ça prouve qu'il y a quand même des gens on a aussi quelquefois des gens qui sont contre, on peut éventuellement discuter avec eux. Mais globalement, toutes ces manifestations qu'on a organisées depuis le 7 octobre nous montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui nous félicitent, nous encouragent, viennent nous rejoindre. Et ça, c'est quand même un signe encourageant parce que c'est vrai qu'à part ça, on ne voit pas grand-chose d'autre qui bouge. Quoi. Donc,
Mais je dirais que Israël a perdu la bataille de l'opinion. Il s'est discrédité aujourd'hui. Globalement, les sondages le prouvent. Il y a une majorité de Français qui sont favorables, sinon à la cause palestinienne, du moins... qui sont favorables à ce qu'un équilibre soit fait et que l'on reconnaisse à la Palestine le droit d'exister.
Et ça veut dire aussi que la mobilisation visible paye?
Je le pense, parce que, comme disait Chantal, il est extrêmement rare qu'on ait des réactions hostiles. Ça arrive, mais c'est vraiment très rare. Et on a des gens qui passent. Il y a quelques jours, c'était des cyclotouristes italiens qui venaient là, qui nous ont dit « Ah, mais c'est super ce que vous faites, etc. » Et c'est vrai qu'en France, on a la chance, nous, d'être organisés au plan national. Et la FPS est une association nationale de plus d'une centaine de groupes locaux, hein, qui permet d'avoir des manifestations un peu partout, dans, en tout cas pas partout, mais dans près d'une centaine de villes, ce qui est beaucoup quand même.
Alors évidemment, Israël ne voit pas d'un bon œil cette vague de reconnaissance, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la France, mais ils ne sont pas les seuls à la reconnaître aujourd'hui. Il y en a eu aussi d'autres qui l'ont reconnu hier, et pas des moindres, hein, des pays quand même qui ont de l'importance, l'Australie, le Canada, le Portugal, le Royaume-Uni. Et Israël dit continuer de vouloir frapper Gaza avec une force sans précédent. Concrètement, c'est quoi qu'il faut craindre, hein?
On est devant un massacre. Alors, vous savez, nous, on parle souvent d'un génocide. Mais au fond, ce qui compte, ce n'est pas tellement les mots qu'on accole à ça, ce sont les morts. Combien de morts? Il faut bien se rendre compte. Alors, le nombre des morts, le Hamas identifie, il donne des chiffres pour Gaza concernant les morts qui sont identifiés. C'est, je ne sais plus à combien on est, dans les 66 000.
64 000, oui.
C'est-à-dire qu'on peut en imaginer beaucoup plus.
Ah ben oui.
Mais il y en a certainement beaucoup plus. D'une part, il y a tous ceux qui sont ensevelis sous les décombres, et donc on n'a pas les noms. On estime entre 10 et 12 000. Et d'autre part, il y a toutes les victimes indirectes. On compte les morts, mais il y a les blessés. Et quand un blessé décède 8 jours, 15 jours après, il n'est pas compté parmi les morts. Donc, on arrive à des chiffres vraiment beaucoup plus importants. Mais au-delà des chiffres, ce qu'il faut bien se dire, c'est que chaque mort, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard qui est tué, c'était une vie avec, avec ses espoirs, ses projets. Et c'est ça qui est vraiment terrible.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que tous les blessés dont tu parlais, Jean-Paul, n'ont plus où aller pour être soignés, puisque tous les hôpitaux quasiment à Gaza ont été détruits. Donc ça fera partie là aussi de tous les morts qu'on va pouvoir compter après, qui n'ont pas pu être soignés.
Mais qu'est-ce qu'elle a de différent, cette offensive israélienne? Parce que c'est pas la première, mais on a quand même l'impression que là, on est en train de passer une étape supérieure.
Ah oui, là, il n'y a aucun rapport. Il y avait une grosse offensive en 2014, par exemple. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le nombre total de morts, c'était autour de 1400-1500. C'est sans rapport avec la réalité d'aujourd'hui. Et puis, alors... Ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que là, on est face à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, et que les responsables de ces crimes, d'une manière ou d'une autre, ils devront en répondre. Et il y a ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, qui a déjà investigué et mis en accusation Benjamin Netanyahou, et celui qui était son ministre de la guerre à l'époque, Yoav Gallant, deux personnes. Il a aussi mis en accusation des dirigeants du Hamas, mais qui ont été tués depuis. Donc, eux, c'est fini pour eux. Mais voilà, Netanyahou, il va falloir qu'il réponde de ça un jour ou l'autre.
Et ce, malgré le fait qu'il peut toujours aujourd'hui continuer à aller dans certains pays sans risquer de se faire arrêter.
Oui, alors c'est intéressant ça aussi. Dans quel pays il est allé? Il est allé en Hongrie. Alors, la Hongrie, je peux dire que son dirigeant, c'est un antisémite, un vrai Viktor Orban. C'est un antisémite, et c'est aussi quelqu'un qui est un vrai fasciste, disons. Mais pro-israélien à mort, donc voilà, il est chez son ami. Par contre, Netanyahou est aussi allé à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, et la France aurait dû l'empêcher de survoler le territoire français, lui interdire le survol du territoire français. Elle ne l'a pas fait, nous le regrettons. Et le ministre Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, avait déclaré qu'il y avait une immunité parce qu'il est chef de gouvernement. Pas du tout, il n'y a pas d'immunité pour les chefs de gouvernement. Et on le sait, ça avait été le cas du général Pinochet, les plus anciens s'en souviennent.
Au Chili.
Pinochet du Chili, oui, qui avait été à Londres et qui en est parti très vite parce qu'il risquait d'être arrêté.
On continue de parler de la situation à Gaza avec vous, Jean-Paul Roche et Chantal Canu, mais avant, on va faire une pause musicale. On écoute Barry Can't Swim. C'est un DJ de musique électronique écossais qui nous vient d'Édimbourg. Le titre s'appelle Kimpton et c'est sorti cette année dans son album L'Honneur. À tout de suite dans le pédalo. C'était Kimpton de Barry Can't Swim. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Paul Roche et Chantal Canu de l'association France-Palestine Solidarité pour parler de la situation à Gaza en ce jour de reconnaissance de la Palestine par la France. Alors, on parlait de l'offensive israélienne qui continue. Les Gazaouis, eux, sont obligés de fuir vers le sud de la bande. Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur les conditions de vie sur ce territoire ?
Ah ben c'est absolument dramatique, parce que c'est pas la première fois qu'il fuit vers le sud. Il fuit vers le sud, il remonte vers le nord, et il refuit vers le sud, vers le centre, etc., etc. Et on voit aujourd'hui des images quand même avec les réseaux sociaux, et puis quand même sur un certain nombre de médias, on voit ces images de milliers de gens qui fuient, qui marchent le long de la mer avec des fois un âne ou rien du tout et qui, voilà, c'est absolument désespérant et ils n'ont aucun abri sûr puisque ils fuient vers des tentes qui elles-mêmes sont bombardées et à chaque fois, Israël dit, bah oui, mais là, il y avait des dirigeants du Hamas ou n'importe quoi. C'est totalement absurde. Et les hôpitaux, on en a dit un mot, mais les hôpitaux sont aujourd'hui visés. Et il y a une autre question qui est particulièrement odieuse, c'est que sont visés aussi les journalistes. Aucun journaliste occidental n'a été autorisé à entrer à Gaza, parce qu'on ne veut pas de témoins. Et il y a des journalistes palestiniens. Aujourd'hui, ces journalistes palestiniens n'osent plus, ne peuvent plus arborer d'identification presse parce que ça les désigne à la mort. Ils sont systématiquement visés. Ce qui est un scandale total. Il y a des chiffres qui divergent autour de 220 journalistes palestiniens assassinés.
Et après coup, certains d'ailleurs sont souvent... les autorités israéliennes vont... comme vous disiez tout à l'heure, prétexter des liens avec le Hamas ou autres qui ne sont jamais prouvés.
Jamais, jamais, bien sûr.
Pour revenir sur la question de la migration des personnes qui habitent plutôt dans la partie nord de la bande de Gaza, ça représente à peu près 500 000 personnes qui vont fuir vers le sud de l'enclave. Qu'est-ce que ça implique, une telle migration sur un si petit territoire?
C'est un chaos total, quoi. Un chaos total. Alors... là, apparemment, l'armée a commencé de rentrer dans la ville de Gaza, l'armée d'occupation. Bon. Y a des gens, qui ont voulu rester jusqu'au dernier moment dans leur maison parce qu'ils ont déjà été déplacés. Ils y sont revenus et ils se disent, de toute façon, là ou ailleurs, c'est pas plus mal d'être là. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent en tout cas que, quitte à mourir, autant mourir chez soi, voilà. On est effaré devant ça. Que dire d'autre? On peut rien dire.
Et pour leur venir en aide, malgré tout, il y a des flottilles qui se mettent en place pour contrer notamment le blocus israélien. L'ONU alerte d'ailleurs sur 10 000 enfants qui auraient besoin d'un traitement contre la malnutrition. Nous, à notre échelle, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider cette population gazaouie?
C'est vrai qu'on se sent un peu démunis, mais ce que vous annonciez, la flottille, il y a quand même eu deux tentatives de flottille qui ont échoué et qui ont été arraisonnées par Israël. Là, cette fois-ci, c'est quand même une immense flottille, puisqu'il y a, je ne sais plus, Jean-Paul, tu peux préciser combien il y a de bateaux dans cette flottille?
Oui, mais je pense qu'ils vont être eux aussi bloqués et arraisonnés. Alors, il y a le bateau un peu, le bateau amiral, entre guillemets, qui s'appelle Soumoud, ce qui veut dire résistance. Mais là, ils sont en passe d'être arraisonnés. Nous, on est malheureusement, on a une certaine forme d'impuissance. La seule capacité qu'a notre mobilisation, enfin la seule, je dirais qu'il y en a deux, il y a quand même de faire pression sur les autorités françaises, et puis il y a aussi le fait que, avec les réseaux sociaux, toutes nos manifestations sont vues immédiatement en Palestine comme ailleurs, et ça, les Palestiniens nous le disent, c'est un puissant encouragement, c'est dire, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes abandonnés par les États occidentaux, certes, mais nous ne sommes pas seuls.
Et c'est vrai, j'ai envie d'ajouter, c'est important parce qu'on entend très souvent des gens qui nous disent, mais à quoi ça sert? Ça fait 2 ans que vous manifestez, ça change rien, à quoi ça sert? Ben si, oui, comme vient de le dire Jean-Paul, ça sert au moins aux Palestiniens qui nous voient, qui savent ce qu'on fait et qu'on les soutient, et Ça, c'est vraiment important. Quoi.
Alors, parler du génocide à Gaza, c'est aussi parfois oublier la Cisjordanie. Netanyahou a promis de rendre physiquement impossible l'existence d'un État palestinien. Et ça passe notamment par des projets de colonies israéliennes en Cisjordanie. Est-ce que cette reconnaissance de la Palestine protège de cette colonisation? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle ne va pas inciter Netanyahou à faire cavalier seul en tournant le dos à la communauté internationale?
De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que Netanyahou, il se fiche de tout. Et qu'on a beau annoncer des choses, et là, la reconnaissance de la Palestine, ça le met très en colère, mais ça ne l'empêche pas de continuer à créer des colonies, enfin, autoriser des colonies à se construire. Et de toute façon, lui, il l'a dit, il veut la Palestine, mais sans les Palestiniens. Donc la Cisjordanie, il fera comme à Gaza, c'est-à-dire qu'il va rendre la vie impossible à tous les Palestiniens qui ont déjà une vie impossible. Là, en ce moment, on est en lien avec la coopérative qui ramasse les olives pour faire de l'huile d'olive. Et ils nous disent que cette année, il y aura 30% de la récolte par rapport aux années précédentes parce que les oliviers sont arrachés, on empêche les paysans d'aller sur leurs terres, on leur rend la vie impossible, on détruit les récoltes qu'ils arrivent à faire, on détruit les récoltes. Donc ça devient vraiment une vie impossible pour eux et c'est vraiment catastrophique, quoi.
Un mot maintenant sur les différentes mobilisations que vous organisez. Vous, c'est tous les samedis, c'est ça?
Tous les samedis depuis deux ans, quoi, hein. Depuis pratiquement deux ans, c'est énorme. Et en fait, les gens nous le demandent parce que pendant deux mois, à la fin du printemps, on avait dit on va faire simplement le premier samedi de chaque mois. Mais on s'est très vite rendu compte que non, il y avait une attente de la part de nos amis, de la part de beaucoup de gens. Et ce qui est remarquable, c'est que on a quand même du monde à chaque fois. On n'a jamais eu moins de, peut-être une fois 130 personnes, mais on est plutôt de l'ordre de 200, 250. Et concrètement, on prépare une grande manifestation pour le mois d'octobre. Bon, on a le temps d'en reparler, hein, ça sera le 18 octobre. On veut chercher à peser et à montrer que l'opinion en France, elle est aux côtés des Palestiniens.
Et au-delà des mobilisations qui sont faites les samedis, il y a aussi certains temps qui sont organisés, notamment mercredi avec la projection d'un film, c'est ça, c'est Put Your... je l'ai mis devant les yeux. Put Your Soul on Your End and Walk.
Oui, c'est un très beau film, un film réalisé par Sepideh Farsi, qui est une franco-iranienne, qui d'ailleurs s'est battue pour les droits des femmes en Iran, hein, et qui était en relation avec une jeune femme, à Gaza, qui s'appelait Fatem Hassona, qui documentait, qui prenait des photos, qui lui parlait tous les jours de ce qui se passait, de la guerre à côté d'elle, etc. Ça a duré 200 jours. Et après 200 jours, elle a été tuée, assassinée, dans une attaque israélienne sur sa propre maison. Et évidemment, ça prend une toute autre tournure. Et ce film, il est vraiment... On ne peut qu'encourager tout le monde à y aller. Mais réservez vos places à l'avance, parce que je pense que nous aurons salle comble et que nous refuserons du monde.
C'est aux 400 coups, hein, c'est ça?
Aux 400 coups.
Dernière question sur la mobilisation encore à échelle locale. Est-ce que vous avez des demandes particulières à adresser aux élus locaux pour mettre en place des initiatives, à l'image de Marseille, par exemple, qui compte mettre en place un jumelage avec Bethléem?
Oui, disons que oui, on a des municipalités voisines d'Angers avec lesquelles nous pouvons travailler. Malheureusement, nous avons fait appel à la municipalité d'Angers plusieurs fois et nous n'avons pas de réponse favorable. Alors, il faut dire que à Muret-Rigné, au Pont-de-Cé, à Boucouzé, à Saint-Jam. Où nous avons d'ailleurs ce soir, après cette ce moment de radio, nous allons partir à Saint-Jean, devant la mairie, où la mairie arborera ce soir des drapeaux palestiniens. Et donc, on remercie beaucoup cette municipalité-là.
Merci beaucoup, Jean-Paul Roche et Chantal Canu, d'être venus à notre micro. On rappelle, vous êtes membre de l'association France-Palestine Solidarité. Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le pédalo, c'est bientôt fini, mais avant, on vous propose d'écouter le dernier épisode de notre série étudiants-étudiantes face B. C'est une série en 3 épisodes, élaborée en partenariat avec l'Université d'Angers. On vous propose de découvrir la vie et le parcours de 3 étudiantes ou étudiants atypiques, le tout raconté par leurs proches. Et pour ce dernier numéro, on vous propose d'en apprendre plus sur Maxime, l'étudiant drag queen.
Étudiants face B. La vie de la jeunesse hors des amphis. Parcours, exploits et quotidien. Un podcast de Radio Campus et de l'Université d'Angers.
Maxime est étudiant à l'ASTA et à l'ESTUA en études de comédie musicale à l'Université d'Angers. Il fait des représentations drag dans la ville en tant que Sweet Unicorn, son personnage de scène. Mais avant tout, c'est une personnalité qui suscite l'admiration de son entourage.
Alors, selon moi, Maxime, il est extraordinaire parce qu'il est touche-à-tout, il veut constamment s'améliorer, il veut constamment découvrir de nouvelles choses. Il veut constamment apprendre plus sur son art, sur la comédie musicale, sur le chant, sur l'acting, sur le monde du drag également.
Maxime, il est extraordinaire parce que c'est un bosseur et que même s'il a des difficultés, il va tout faire pour y arriver. Et même s'il a acquis des choses, il ne va pas se reposer là-dessus, il veut encore plus. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'il est extraordinaire, parce qu'il va à fond.
Yvon est le copain de Maxime et l'accompagne à la technique lors de ses shows. Emma, elle, est son amie et une camarade de classe de l'ESTUA.
Maxime, son plus grand talent, c'est d'écouter. Quand il y a un problème, il prend parti des deux. Il prend pas un côté, quoi. C'est très agréable de parler avec Maxime.
Je dirais que Maxime, il est persévérant. Persévérant, il lâche jamais. Je dirais également qu'il est solaire. Il est tout le temps dans la bonne humeur. C'est le genre de personne qui va te faire rigoler alors que t'as passé une mauvaise journée.
Maxime, c'est le genre de personne qui booste les autres. Un mot qui décrit Maxime, c'est bienveillance. Je fais que dire ça, mais c'est vraiment le mot.
Cette personnalité est mise au service de sa passion quand il monte sur scène.
Ce que Maxime slash Sweet Unicorn fait, donc c'est du drag queen et c'est un art qui mélange énormément de disciplines. Ça va du chant, faire de la performance sur scène, donc danser également. Ça peut être faire de l'humour, du comique, du stand-up. Elle écrit également des paroles de chansons, pour l'instant c'est pas terminé. Elle fait des reprises de chansons connues où elle modifie les paroles dans l'air d'une chanson qu'on connaît tous. Par exemple, elle a repris une chanson de Aux Champs-Élysées de Joe Dassin qu'elle a reformulée pour que ça soit au Blue Monkey. C'était un petit hommage au lieu du Blue Monkey qui nous accueillait sur Angers. C'est une drague tout-terrain où elle peut performer à la fois sur des grandes scènes entourée d'autres artistes danseurs par exemple ou d'autres artistes chanteurs. C'est une artiste qui aime chanter en français également. Elle aime bien être belle, elle fait attention aux détails, elle aime bien créer ses propres costumes, elle fait tout toute seule.
Une activité qui lui permet de toucher à tout et de créer son spectacle de A à Z. Revêtir la peau de Sweet Unicorn permet aussi à Maxime d'utiliser professionnellement les enseignements qu'il suit à l'université et d'ainsi surmonter des difficultés.
La chose la plus folle, c'est que Sweet a réussi une chanson que Maxime n'avait pas réussi en cours, la même chanson. Et en fait, le jour même, il y avait Maxime qui a chanté la chanson et qui réussissait pas en cours. Et le soir même, j'ai été voir Sweet en show et la chanson était trop bien. Et j'étais en mode, mais comment c'est possible? Et ça, j'ai trouvé ça bluffant. Donc c'est trop bien.
Finalement, pour ses parents, Nadine et Jean-François, ce qui est extraordinaire, c'est d'être heureux et d'avoir trouvé sa voie.
C'est un personnage. Nous, on le voit sur les deux côtés. Maxime a tout le temps la joie de vivre, est toujours de bonne humeur, toujours prêt à faire plein de choses. Il est rayonnant. Enfin, c'est un rayon de soleil, en fait, quoi. T'as toujours plein de rêves, plein de bons côtés, que du bon.
Maxime est extraordinaire parce qu'il s'éclate en ce moment dans ce qu'il fait, dans le drag. Il a mis longtemps à se chercher et il a fini par se trouver comme ça. Il est très épanoui.
Il n'a jamais été aussi épanoui que maintenant. Bon, il a toujours été, mais là, on sent que c'est vraiment qu'il est dans son élément, quoi. Et c'est lui et peut se montrer tel qu'il est, sans cacher quoi que ce soit. Et il est heureux comme ça, quoi. Eh bien, si j'avais quelque chose à lui dire, c'est que je l'aime de tout mon cœur et que j'espère qu'il va pouvoir s'épanouir encore et faire tout ce qu'il a envie dans la vie.
Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux proches de Maxime pour leur participation. Encore merci à Jean-Paul Roche et Chantal Canu d'avoir été nos invités. Et merci à Mathias à la technique. Aujourd'hui, la programmation continue sur le 103FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.